Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
À la une, ces nouveaux combats violents à l'arme lourde ce dimanche autour de Sake et Chacha au Nord Kivu. Ils opposent les FARDC au M23 appuyés par l'armée rwandaise. D'autres combats sont signalés sur différents fronts. Pour l'heure, difficile d'établir un bilan à cause de l'inaccessibilité des zones de combat, indiquent des sources de la société civile dans le Massissi. Sud Kivu, les conditions de détention s'améliorent au quotidien dans la prison centrale de Bukavu. Téné, aucun décès n'est enregistré sur place depuis plus d'un mois, car 7 médecins travaillent au quotidien pour les soins médicaux des détenus en détresse. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, l'invité de ce midi, Louis Watum, il vient d'être réélu à la tête de la Chambre des mines en RDC. Approché par Radio Kapi, il dit compter sur l'implication de tous pour élever les défis dans son secteur. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Reprise d'intenses et violents combats à l'arme lourde ce dimanche entre les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise tout autour de la cité de Sake et celle de Chacha située respectivement à 27 et 40 kilomètres au sud de la ville de Goma, territoire de Masisi. Toujours dans cette région, d'autres combats sont signalés sur différents fronts. Plusieurs sources dans la région affirment que c'est l'armée qui aurait lancé cette offensive contre les positions rebelles. Le point avec Gabriel Ouaménia.
Les sources concordantes confirmées par la société civile affirment que jusqu'à la mi-journée, les détonations d'armes lourdes se faisaient toujours entendre aux environs de la cité de Sake. C'est depuis 5 heures du matin que les violents combats opposent les forces loyalistes aux rebelles du M23. Les hostilités se déroulent sur plusieurs positions des insurgés situées au sommet de la colline Ndumba, tout autour de la cité de Chacha, en groupement Mufunishanga. À en croire les mêmes sources, la colline Ndumba constitue le premier point névralgique sur le théâtre des opérations qui permet aux rebelles de contrôler leurs arrières bases de Mushaki, Kilolirwe, jusqu'à Mweson en passant par Kichanga. D'autres combats ont repris ce dimanche vers 3h du matin sur différents axes du territoire de Masisi, entre les Wazalendo et les rebelles. C'est notamment sur les axes Kimoka, à l'entrée du village Malehe, Kisheke, derrière la base de la Monisco, et à Tingi vers le village de Lutobogo. Les sources de la société civile en territoire de Masisi précise qu'il est pour l'instant difficile d'établir un bilan de ces affrontements à cause de l'inaccessibilité des zones de combat. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Kapi.
Par ailleurs, dans le territoire de Beni, toujours au Nord Kivu, les cas de meurtre des civils par des hommes armés se sont accentués les deux dernières semaines dans les groupements Malio et Basso Amadiwe. C'est vers la partie ouest de la ville de Beni, dans le secteur de Benimbao. Les acteurs de la société civile ainsi que ceux des droits de l'homme qui pointent du doigt les éléments des groupes armés demandent à l'armée de s'impliquer afin de restaurer l'autorité de l'État dans cette région. Le récit de Marc Marofimo.
Selon le coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Beni, c'est depuis le 10 février dernier que les cas de tuerie des civils par des hommes armés se sont accentués dans le groupement Malio et Basso Amadiwe. Au total, 8 personnes ont été tuées par armes blanches et à feu en l'espace de 10 jours dans les localités Kiavisoho, Bugama, Mbilinga, Komba, Vurondo, Kimamapeti, Irango et Avisi-Kuisine. Maître Mutsunga Bin Sikwaya estime qu'il est temps que l'autorité de l'État s'installe dans cette région afin que ces malfaiteurs soient mis hors état de nuire et épargner ainsi la population de ces tueries, vols et pillages à la longueur des journées et qui prennent une allure très inquiétante. Il recommande par ailleurs aux autorités de déployer les éléments des FARDC et de la PNC dans cette zone, de rendre effectifs les programmes de cantonnement des milices IPLC favorables à la reddition. L'acteur de la société civile demande aussi l'ouverture d'une enquête sérieuse pour que les auteurs de ces actes criminels soient arrêtés et déférés devant la justice et à la population de dénoncer tout suspect auprès des autorités compétentes afin de favoriser un retour de la paix dans cette zone gangrénée par l'insécurité. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Entre-temps, le vice-président du comité des jeunes conseillers de l'association Scout du Nord Kivu appelle les jeunes en général et les scouts en particulier à ne pas se laisser manipuler par les groupes armés qui insécurisent l'est de la RDC. Il a lancé ce message à l'occasion de la journée mondiale du scoutisme célébrée le 22 février. Kassere Kagrevis, dit narval ponctuel, appelle plutôt les jeunes scouts à incarner l'esprit du patriotisme de Baden-Powell, leur fondateur. Il a été joint par Guylaine Kassassia.
La date du 22 février, c'est une date qui est célébrée dans le monde entier, dans notre province du Nord-Kivu. Ce n'est pas comme d'habitude, vu la situation que nous traversons. Nous faisons appel aux jeunes du Nord-Kivu en général et en particulier aux scouts de ne pas se laisser manipuler par les groupes armés
qui vont leur manipuler afin ils seront victimes de ces mouvements,
mais d'incarner la manière de faire de notre fondateur, lui qui, dans sa recherche de la paix, il priorisait tout d'abord la légalité.
Nous leur interdisons de ne pas s'hasarder, car dans les mouvements scouts, il y a toujours des sanctions. Si l'on constate que toi et jeune, tu t'es déjà enrôlé, en tout cas, on te convoque dans les mouvements scouts et puis on te sanctionne. Enfin, on te remet en justice.
À la même occasion, les membres du district scout de Butembo ont planté plus de 200 arbres dans la concession de l'Institut Monseigneur Marius, située au bord de la rivière Kimemi, concession qui est d'ailleurs menacée par des érosions. Province du Tanganyika, 3 disparus et 3 rescapés. C'est le bilan du naufrage d'une pirogue survenue dans la nuit de vendredi à hier samedi dans le lac Tanganyika. D'après des sources sur place, le drame est survenu dans le territoire de Kalemi. La pirogue en provenance du village de Rugo s'est rendue sur l'îlot de Bilila. Le vent qui soufflait sur le lac Tanganyika et l'étroitesse de l'embarcation seraient à l'origine de ce naufrage, signalent les mêmes sources. Parmi les victimes, une femme et 2 hommes. Information confirmé par l'administrateur du territoire de Kalemi.
La population carcérale de la prison centrale de Bukavu est...
Toutes nos excuses, nous allons à présent au sud Kivu. Je vous l'ai dit dans les titres, nous parlons des conditions de détention qui s'améliorent au quotidien dans la prison centrale de Bukavu. Cela en dépit du surpeuplement de cette maison carcérale, estimée à 4 fois plus que la capacité habituelle. À ce jour, aucun décès n'est enregistré dans la prison de Bukavu depuis plus d'un mois. 7 médecins travaillent au quotidien pour les soins médicaux aux détenus en détresse. Le point avec vous, Emmanuel.
La population carcérale de la prison centrale de Bukavu est estimée à ce jour à plus de 2100 détenus sur une capacité d'accueil d'environ 500 personnes. Malgré ce surpeuplement, les conditions de détention s'améliorent, le dépôt de vivres est suffisamment ravitaillé, le centre médical est fonctionnel. Ilunga Djulumona Konde, directeur.
Aujourd'hui, nous sommes dans les 2167 détenus, plus ou moins 67 femmes et 7 nourrissons, plus aussi les catés mineurs où il y a 68 détenus. Nous avons plus de 7 médecins et 6 infirmiers. Sur le plan alimentaire, vous-même, vous avez visité les dépôts. Et c'est plein et là, on n'a pas d'inquiétude. En tout cas, on a une provision de plus ou moins 2 ou 3 mois. Ça fait plus ou moins un mois, on n'a pas de décès.
Un système de surveillance installé par la MONUSCO permet de combattre d'éventuels cas d'évasion.
Côté justice aussi, on libère presque chaque jour. Les magistrats viennent en foraine ici presque chaque jour. Il y a audience, 4 audiences par semaine. Et sur le plan sécuritaire, il y a aussi un effort. La MONUSCO m'a doté de caméras de surveillance, vous avez vu. Sinon, bon, la sécurité est bien tenue à la prison. On a quand même fait longtemps, il n'y a pas d'évasion.
Emmanuel, et la Mejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Restons à Bukavu. C'est enfin hier, samedi, que l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a tenu sa toute première assemblée plénière. Cela, presque un mois après le lancement officiel des activités parlementaires dans l'ensemble du pays. Au total, 48 députés provinciaux nouvellement élus ont pris part à cette première plénière qui a vite abouti à la mise en place d'un bureau provisoire. Ce dernier a pour mission de mettre en place un règlement intérieur et installer le bureau définitif avant les élections sénatoriales et celles du gouverneur et vice-gouverneur du Sud Kivu notamment. Signalons que ce début de plénière à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu intervient quelques jours après la levée de la grève des agents administratifs de l'Assemblée qui réclament plusieurs mois de leurs arriérés de salaire. Rendons-nous en Ituri. Les décès maternels et infantiles ont sensiblement diminué dans la zone de santé de Niakoundé, constat fait entre 2022 et 2024. C'est ce qu'affirme le médecin responsable de cette entité. Docteur Désiré Douabo s'exprime à la suite des propos tenus sur notre antenne par le service du bureau genre de la chefferie de Andissoma, qui parle d'environ 40 décès. Selon lui, le nombre est plutôt de 11 femmes décédées. Il précise que la calmie observée dans la zone et l'appui des différents partenaires ont permis d'améliorer la prise en charge des malades en général. Ce dernier insiste cependant sur la nécessité de doter cette zone d'une ambulance en vue de faciliter l'acheminement à temps des malades vers des hôpitaux en cas de besoin. Un extrait de ses propos choisi par Jean-Claude Loki.
Les chiffres réels dans la zone de santé de Niakoundé n'étaient pas ces chiffres-là, parce que à 2021, on a notifié 6 décès maternels, et en 2022, nous en avons enregistré 2, et en 2023, on a enregistré déjà 3, mais en 2024, on n'a pas encore enregistré les décès maternels dans la zone. Les chiffres ont baissé aujourd'hui en 2023, parce que en 2021, il n'y avait pas de prestataires qualifiés, parce que c'était une période difficile dans la zone, où la population avait presque vidé, et tous les prestataires de soins craignaient leur sécurité, avec quitter la zone. Les prestataires qui étaient prestés dans la zone n'étaient pas des prestataires qualifiés. Mais après la calmie dans la zone, tout le monde a presque rejoint son poste. Les accouchements sont assurés par des personnels qualifiés et ça fait qu'aujourd'hui, avec cette qualité de prestation des acteurs qui ont fait que nous avons sensiblement baissé les cas de décès maternels dans la zone. Effectivement, la problématique de l'ambulance se pose parce que ça demande vraiment que la zone ait l'ambulance pour pouvoir acheminer les malades de la structure de prise de charge initiale vers la structure de référencement.
Restons dans la province de l'Ituri. Des fruits et légumes sont rares ces derniers temps dans divers lieux de vente à Bounia. Les étals de certains vendeurs rencontrés sur les artères principales sont quasi vides. D'autres exposent quelques produits déjà fanés par le soleil. Selon des vendeuses rencontrées, la recrudescence de l'insécurité et les tueries des civils dans plusieurs zones à vocation agricole expliquent ce faible approvisionnement de Bounia en fruits. C'est un reportage signé Ezekiel Mouzalia.
À l'entrée du quartier général de la MONUSCO à Bounia, une vendeuse au visage triste nous montre son étal presque vide. Quelques fruits fanés par le soleil sont exposés. Comme ses collègues, elle dit manquer des marchandises. Selon elle, l'insécurité sur la route Katoto et Talisingo expliquerait cette situation. Elle exprime son désarroi. Nous les femmes, nous ne savons plus quoi faire. C'est nous qui portons la charge des ménages. Ce sont les gens qui nous amènent des marchandises qui ont été tués. Nous sommes en deuil. Même décor également au marché central de Bounia, où les femmes qui vendent des légumes remarquent qu'elles éprouvent de plus en plus du mal à trouver des marchandises. Les paysans ne cultivent plus. Plusieurs zones à vocation agricole sont envahies par les groupes armées, témoigne cette femme en pointant du doigt sur son étal deux petits paquets d'amarantes et deux autres des feuilles de courge déjà fanées. Ces derniers temps, nous ne trouvons plus de légumes. Il n'y a personne pour venir même prendre ces légumes qui sont déjà fanés. La vie devient difficile dans ce marché. De nombreux habitants à faible revenu qui vivent des recettes journalières invitent le gouvernement à restaurer son autorité pour permettre aux paysans de retourner dans leurs champs. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
L'actualité aujourd'hui, 25 février, vous le savez, c'est aussi l'anniversaire de votre radio, la Radio de la Paix, qui totalise 22 ans d'existence. Quelques auditeurs de la ville de Bukavu se sont exprimés à cette occasion. Ces derniers apprécient la Radio Okapi et encouragent toute son équipe. Cependant, ils s'interrogent sur l'avenir de cette radio après le départ de la MONUSCO. Leurs propos sont recueillis par Rachel Kiesé.
La radio Okapi, c'est la radio de la paix, c'est la radio que tout le monde suit. En tout cas, la majorité des Congolais suivent la radio Okapi. Mais la crainte que nous avons à l'instant, on est en train de nous dire que la MONUSCO va bientôt partir. On se demande quel sera le sort de la radio Okapi.
La radio Okapi, c'est une radio vraiment qui émet très bien à Bukavu et dans les environs. On suit cette radio, vraiment c'est bien, c'est une radio bien. Et joyeux anniversaire à Radio Okapi. 22 ans, c'est pas petit, c'est trop. Joyeux anniversaire. On le souhaite qu'elle est meilleure.
La Radio Okapi nous donne des informations, l'éducation, de savoir vivre au pays, partout au monde. Je crois que partout au monde, on suit la Radio Okapi. On est en train de nous parler que la MONUSCO, bientôt, le mandat va se terminer. Nous aussi, nous posons la même question. Est-ce qu'avec la Radio Okapi, Le mandat aussi va se piser comme ça.
La radio Capi, c'est une grande radio en République démocratique du Congo. Et je suis l'un des auditeurs, évidemment. Et les 22 ans qu'il va devoir totaliser Radio Capi, et nous ne pouvons que souhaiter le meilleur et de pouvoir continuer à renforcer la qualité. Parce que dans les recoins, dans des territoires, il y a parfois des petites coupures par rapport à nous qui sommes ici en ville.
Toujours dans le cadre des 22 ans de votre radio, au Kassai Oriental, plusieurs habitants de Mbujimayi souhaitent plein succès à ce média à la suite de son travail de qualité. D'autres demandent à Radio Capi de retourner son antenne locale et d'autres encore souhaitent que Radio Capi améliore son signal. Ils se sont exprimés ainsi au micro d'Esther Ndalafina.
Bon, je suis flatté vraiment que vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Mais ce qui me tique, moi, c'est qu'il y a des fois que le signal de Radio Okapi ici en Mbujimayi, nous ne le recevons pas. C'est pourquoi nous demandons, il serait perdant comme il prétendait les autres, ou bien ils sont encore là, puisqu'il faudrait que votre signal soit au-dessus des autres signaux, des autres radios.
D'abord, l'inquiétude, l'absence de l'antenne Okapi, qui était notre radio, qui était ici en Mbujimayi. Est-ce que l'antenne-là peut revenir sur la demande de nous, les auditeurs de la Radio Okapi? Puisque Radio Capi était en premier lieu pour notre province, puisque c'était une radio qui fait la fierté de la République. Radio Capi a l'expérience, il y a des journalistes de qualité, mais l'absence de cette antenne-là, ça nous fait un peu mal. Hein.
Nous sommes très contents d'une radio qui nous a rendu beaucoup service. Beaucoup des informations, nous les avons eues par ces billets-là. Et aujourd'hui, ça continue à nous aider à avoir des informations, même si certaines émissions ont été modifiées, mais on reste quand même confiant à cette...
Ce que nous apprécions de la radio Okapi est que sa façon d'être dans tous les coins, sa couverture intensifiée, a aidé beaucoup la voix des oubliés, a aidé à ce que les gens dont la voix ne pouvait pas être entendue soient entendus à partir de sa couverture. Et des fois, nous-mêmes, nous en sommes témoins. En dehors de ça, je crois qu'il y a beaucoup d'émissions qui ont ouvert même l'esprit de beaucoup de compatriotes, que ce soit du point de vue démocratique, du point de vue politique, et aussi sociale.
Actualité internationale. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, annonce la levée avec effet immédiat d'une partie des sanctions contre le Niger. Les chefs d'État de la CEDEAO l'ont décidé hier samedi à l'issue d'un sommet extraordinaire. C'est ce qu'a annoncé à Abuja le président de la commission de l'organisation régionale. Ces sanctions ont été imposées au Niger depuis la prise du pouvoir à Niamey d'un régime militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet. Ainsi, les frontières et l'espace aérien nigérien seront rouverts. Les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger de nouveau autorisées et les avoirs de l'État nigérien dégelés pour des raisons humanitaires, a déclaré le président de la CEDEAO.
L'invité.
Il nous vient de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. C'est Louis Watum. Il vient d'être réélu à la tête de la Chambre des mines en RDC. Approché par Radio Capi, il a indiqué que les défis à relever sont immenses. Pour y parvenir, il compte sur l'implication de tous ses membres. Louis Watum est avec Jean Gandou.
Louis Watum, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous venez d'être réélu à la tête de la Chambre des mines. Sous quel signe placez-vous votre nouveau mandat?
D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont renouvelé leur confiance en moi. Et quant au nouveau mandat, c'est essentiellement sous le signe de la redynamisation des activités de la Chambre des mines. Vous savez que le secteur minier, c'est le secteur qui paye les factures de la République. C'est un secteur qui est important, mais qui, à mon avis, ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer, ou du moins pas au niveau qu'il devait le faire. Et donc, il faut redynamiser tout ça. Il faut que ça devienne un acteur réel de l'économie de notre pays, et que nous puissions réellement aboutir à créer des richesses pour toutes les parties prenantes dans notre pays.
Lors de l'exercice passé, quels sont les différents écueils que vous avez épinglés et pour lesquels vous devriez apporter des solutions?
Vous savez, les écueils sont nombreux. Il y a d'abord le déficit énergétique, il y a le déficit d'infrastructure, il y a cette fiscalité, cette parafiscalité qui sont très difficiles à supporter et qui plombent la trésorerie de nos entreprises, mais il y a également les facteurs de géopolitique. Au niveau national d'abord avec la guerre à l'Est, également au niveau international avec la guerre en Ukraine et bien d'autres facteurs tels que le réchauffement climatique et autres. Tous ces facteurs ont un impact direct dans notre secteur. C'est ça les défis que nous rencontrons.
Comment contourner ces différentes difficultés?
Nous n'avons pas d'autre choix que resserrer nos rangs et engager un dialogue franc et sincère avec les différentes parties prenantes au niveau de la tripartite entre le gouvernement, les opérateurs miniers et la société civile. Il faut que chaque partie prenante comprenne qu'elle n'a pas que des droits, elle a aussi des obligations. Et chacun doit jouer sa partie. solutions?
Ben, nous savons que le problème du déficit énergétique n'est pas nouveau et même la parafiscalité n'est pas aussi nouvelle. Et parce que vous avez déjà fait face à toutes ces différentes difficultés, mais quel est le levier en fait sur lequel vous allez vous appuyer pour que cela change?
C'est vrai, nous avons une industrie qui est résiliente, hein, qui part de record en record de production. Nous sommes aujourd'hui classés 3e mondial en production de cuivre, après le Chili et le Pérou, à près de 2,5 millions de tonnes de cuivre l'an. Mais cela ne doit pas cacher ou occulter le fait que nous avons tous ces problèmes. Et il faut s'attaquer à ces problèmes, parce que ce pays est capable de jouer dans la ligue des 5 millions de tonnes de cuivre l'an et plus, pour peu que nous puissions faire sauter ces verrous-là. Il est important qu'on le fasse, parce que ce pays, avec la dotation minérale qui est là, mérite de jouer dans la grande division d'honneur.
Et pour l'instant, la production annuelle est de combien, notamment du cobalt?
Le cobalt, nous sommes à un peu plus de 150 000 tonnes de cobalt l'an. Le cuivre à 2,5 millions de tonnes l'an. L'or, un peu plus de 30 tonnes l'an. Coup de chapeau à l'or artisanal aussi, qui pour la première fois atteint 5 tonnes l'année dernière, alors que l'année d'avant, c'était à peine 42 kilos pour toute la République, rendez-vous compte. Voilà donc les quelques performances que nous faisons. Mais cela n'est encore rien par rapport à la dotation minérale de notre pays. Nous pouvons faire mieux. Mieux, pas seulement en termes de volume de production, mais en termes de bonne gouvernance et d'administration du secteur minier. J'ai toujours dit à tous les capitaines de l'industrie et à nos dirigeants, le but ultime de faire du mining, ce n'est pas de faire de l'argent, en réalité. L'argent n'est qu'un moyen pour atteindre le but ultime, qui consiste à créer des richesses, à les partager de manière équitable entre toutes les parties prenantes, pour plus de justice sociale et pour la plus grande gloire de Dieu.
Il y a toujours aussi une épine sur la gorge des miniers, c'est notamment l'exploitation artisanale qui fait que les artisanaux très souvent vont dans les installations des miniers. Et ça porte un coût dur, n'est-ce pas, pour les investissements étrangers. C'est un problème récurrent. Et comment le contourner?
Mais nous devons nous regarder en face et se dire que l'exploitation artisanale n'est qu'un palliatif à très court terme. À long terme, ce n'est pas quelque chose de durable. Pour une simple raison, un artisanal minier ne part pas en grande profondeur. Il écume en surface, puis passe à une autre surface. Et il stérilise les ressources qui sont dans le fond, au détriment de l'avenir du pays. Et donc nous devons absolument diversifier notre économie. Nous devons investir dans le capital humain que nous avons. C'est une jeunesse âgée de 15 à 35 ans, dans laquelle il faut beaucoup investir, pour qu'elle aille dans différents corps de métier et que graduellement elle sorte de ce secteur-là. Ce n'est pas un secteur porteur à long terme.
Mais ce que vous dites là, c'est à long terme. Mais les gens qui sont habitués à avoir l'argent assez régulièrement, les amener à attendre 5, 10 ans, ne pensez-vous pas que ça paraît comme une bataille perdue d'avance?
Tout long voyage commence par un premier pas. Et le premier pas consiste à faire un certain nombre d'actions. C'est s'engager dans une politique des grands travaux, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans tous les autres secteurs de l'économie, et commencer petit à petit à déverser ces artisanaux miniers dans ces différents secteurs-là qui sont tout aussi rémunérateurs. Il faut commencer quelque part et puis avancer.
Je vous remercie.
Je vous en prie, merci.
Notre invité vient d'être réélu à la tête de la Chambre des mines en RDC. Lui Watoum répondait aux questions de Jean Gandou au Kabongo. Par ici, prend fin ce journal coordonné et supervisé par Jacques-Yves Molima Aouta et Noëlla Luzitu Kabambi, la mise en onde de Jean-Noël Mokondo. Jean-Noël, merci. Surtout à vous, fidèles auditeurs de la fréquence de la paix, ainsi que nos internautes, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Merci vraiment pour votre confiance et fidélité durant toutes ces années.